nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Merci de nous accueillir dans votre boutique. Alors, vous êtes modestement installé place Vendôme. Vous nous en parlerez au cours de cet entretien. Votre atelier est à Montbrison, donc c'est le département de la Loire. On n'est pas très loin de Lyon, Saint-Étienne. Vous nous parlerez également de votre atelier. Vous êtes artisan maître d'art. Vous dites que vous êtes ferrailleur. Alors, vous nous en direz plus aussi au cours de cet entretien. Donc, vous êtes joaillier. Vous allez confectionner l'épée de Mireille Delmas-Marty, qui va être reçue en tant que membre de l'Académie des sciences morales et politiques, donc académicienne. Nous parlerons aussi à la fin de l'émission de cette épée, de la conception et des symboles qui vont figurer sur le pommeau, mais également sur la lame de cette épée. Commençons, si vous voulez bien, par votre parcours. On aimerait vous connaître un peu plus. Vous avez un parcours atypique, comme souvent ont les artistes. Vous avez commencé par travailler dans l'électronique et petit à petit, vous vous êtes tourné vers la conception de bijoux. Alors, comment s'est passé ce retournement de situation ?
Comment s'est passé ? Je faisais déjà des objets, des choses en bijoux que je ne trouvais pas ailleurs. J'essayais d'utiliser ce que j'avais sous la main, ce que je trouvais.
Une fourchette, par exemple ?
Une fourchette, des pièces à l'époque, les pièces de 5 francs étaient réellement en argent. Et c'était pas très légal, mais on pouvait s'en servir pour faire des bijoux, sans penser pouvoir en faire un métier. Donc je me suis orienté vers l'électronique, qui était un métier passionnant, un métier d'intuition, de recherche et de science, qui petit à petit est devenu, quand les circuits intégrés sont arrivés, est devenu un métier, pour moi, à mon niveau, moins passionnant. Et du coup, je me suis réorienté vers ma passion, que j'ai réussi à transformer en métier.
Les débuts sont difficiles, vous travaillez dans un petit atelier et vous survivez.
Oui, ça a été, je peux dire, pendant les 10-11 premières années, vraiment, je survivais avec, mais j'étais en campagne, j'avais peu de frais et j'étais content de vivre comme ça. Et j'avais pas de perspective, enfin, j'avais pas de projet d'aller ailleurs. Je faisais ce que j'aimais le mieux possible. J'avais une clientèle restreinte, mais passionnée, qui aimait ce que je faisais. Et ça m'a permis, petit à petit, d'aller au-delà.
Alors, entièrement autodidacte, vous aviez des manuels d'instruction ? Comment vous procédiez ?
Alors, je procédais par tâtonnement. Et puis, je me renseignais pas mal sur les techniques ancestrales, à travers les musées, le musée de l'homme, par exemple, ce qui était un lieu où j'adorais aller. Et on apprend des techniques de tissage, des techniques de très complexes, mais très, très, très multiples. Et tout ça m'a toujours passionné. Après, j'ai trouvé des manuels aussi qui traitaient de la bijouterie, mais les trois quarts des techniques que je me suis appropriées, je les ai trouvées tout seul. Alors, il se trouve qu'on réinvente des choses déjà existantes, mais du coup, on les assimile différemment et beaucoup plus intensément.
À aucun moment, vous avez douté de savoir si vous feriez ce même travail toute votre vie, puisque j'imagine quand même que même si vous arriviez à vendre certaines de vos créations, la vie ne devait pas être très évidente et que votre entourage devait s'inquiéter peut-être aussi pour vous.
L'entourage s'inquiétait un peu, ils auraient préféré me voir continuer dans la première voie. Mais instinctivement, je faisais ce que je ressentais et je ne me suis jamais posé la question. Je n'ai jamais eu l'impression de vivre dangereusement. Mon impression était que si je faisais ce que j'aimais vraiment et que je le faisais avec toute mon énergie, je trouverais toujours des gens. Même si c'était qu'1% ou 1 pour 1000 de la population, c'est largement suffisant. Il suffit d'arriver à se faire connaître et que j'arriverai à partager mon art.
Le déclic vient à Montbrison lorsque vous ouvrez votre première boutique.
Oui, un jour je me suis dit, plutôt que d'avoir des gens qui viennent par le bouche à oreille, d'avoir une vitrine sur une rue dans une ville. Et moi, j'ai quitté mon village et hameau de Saint-Germain-Laval pour aller à la ville la plus proche qui était Montbrison. 15 000 habitants, c'est pas la grande ville. Mais pour moi, c'était déjà énorme.
Et les choses après se sont passées très vite.
Très vite.
Lyon, et après, la place Vendôme, nous sommes ici.
La place Vendôme, après, oui. Mais ça s'est fait dans la durée, ça a mis du temps. Mais je ne savais pas qu'en ouvrant Montbrison, j'y serais à Lyon peu de temps après, et à Paris aussi.
Venant de Montbrison, arrivé à la place Vendôme, alors bien sûr, il s'est passé quelques années, mais pour les autres joailliers qui sont place Vendôme, vous faites figure d'OVNI, j'imagine.
La place Vendôme, maintenant, c'est principalement des marques. Disons, où on peut dire que les créateurs qui ont fondé ces marques n'existent plus, leur patte n'est plus là. Et c'est vrai qu'on est très peu nombreux, vraiment créateurs, à concevoir et à réaliser les bijoux en interne, même sur la place de Paris. Expensive jewels, a kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end.
Parlons de pâte. La transition est toute trouvée. Lorsque l'on regarde vos créations, bien sûr, nous sommes en radio, donc pour donner une image, ce n'est pas évident, mais justement, on va travailler là-dessus. Il y a beaucoup de formes géométriques, il y a des bagues en forme de maison. Comment ça se passe sur le plan chronologique? Vous travaillez déjà sur ces bagues maison et ensuite ces bagues avec plusieurs formes géométriques et de pierres. Quel est le cheminement?
Quel est le cheminement? J'ai toujours travaillé par assemblage, par construction, un peu à l'image d'un village qui s'est construit par éléments rapportés. Puis on essaye, on construit quelque chose, on rajoute. Et j'ai toujours fait de cette façon. Et je peux dire que dans la construction, il y a l'architecture, il y a les colonnes, il y a automatiquement les formes géométriques qui ressortent, jusqu'à ce que j'utilise vraiment des symboliques assez précises, assez larges, qu'on retrouve universellement et qui m'ont permis d'affirmer un peu mon style.
Alors c'est symbolique, c'est par exemple le carré triangle rond que l'on retrouve dans toutes vos sculptures.
Dans pas mal de mes bijoux, oui. Assez simplement, si on pose un cube sur une table, c'est immobile et c'est imbougeable. Et c'est un peu notre point de départ. Et l'idée d'aller vers le cercle, qui est une forme d'aboutissement, et on pose une sphère sur une table, une toute petite impulsion, et on va dans n'importe quelle direction, enfin, que l'on choisit si on veut, c'est mieux. Et ça donne plein de possibilités. Et dans toutes les civilisations, l'absolu, c'est de passer du symbole du carré, qui symbolisait la Terre, que ce soit en Chine, Japon, Inde et Europe, Occident, de passer du symbole de la Terre carré au ciel, à l'absolu, qui était symbolisé par un cercle ou un demi-cercle, et qu'on retrouve en même les plus anciennes cathédrales comme Sainte-Sophie en Turquie. C'est un énorme carré qui se transforme en coupole. Et tout le but des architectes au fil des siècles, et la quadrature du cercle n'y est pas pour rien, c'était de transformer le carré en cercle. Mais plus profanement, si on parle, je donne une image, c'est que au début on est un peu brut de décoffrage, et la vie nous apprend que si on ne s'arrondit pas, arrondir les angles, on n'avance pas. Et pour moi, c'est la simplification de la chose à l'extrême, mais c'est ça.
C'est l'évolution de la vie.
C'est l'évolution de la vie. Après, le triangle qui permet de passer d'un stade carré à un stade plus épanoui du cercle, suivant ses pensées, ses orientations religieuses, le triangle peut symboliser la Trinité dans le monde chrétien. Le triangle peut symboliser la femme dans un monde plus profane. La femme peut nous permettre de parvenir. C'est le symbole, quand il est la pointe en haut du feu, de l'air, et la pointe en bas, de symbole de terre. Toute cette symbolique est universelle, on la retrouve partout. C'est vraiment tout ce qui permet de passer de l'un à l'autre.
Ce sont des formes que vous vous obligez à remettre dans toutes vos créations ou ça vous vient naturellement ?
Non. Non, c'est naturel, mais elles ont toujours un ordre. Et c'est pas du hasard, c'est pas pour faire joli. J'ai vu des peintres japonais qui signaient leurs œuvres comme ça, avec cette symbolique-là. J'ai trouvé que c'était universel et du coup ça m'a séduit. Mais je l'ai plus fait par esthétique et instinct que par calcul et réflexion.
Alors pour les personnes qui peuvent voir sur notre site les photos, on voit donc vos bagues avec 5, 6, voire même plus de pierres avec ces formes différentes. Comme vous le disiez, ce n'est pas un assemblage au hasard. Tout est très construit en fonction de la forme de la main. Donc j'imagine que chaque bague est unique et correspond en fait à la taille, à la morphologie de la main de celui ou de celle qui la porte.
Alors, c'est vrai que je fais pas mal de choses sur mesure. Des gens viennent avec leurs éléments, des pierres, de l'or, des choses qui ne savent pas toujours que ce soit utilisable ou pas. Et là, je m'adapte vraiment à la morphologie. Puis il y a les modèles que je construis sans aucune contrainte, mais on retombe toujours sur une forme de désordre organisé. C'est-à-dire qu'au premier regard, ça peut sembler n'importe quoi, il n'y a pas d'harmonie. Et puis plus on rentre dedans, plus on prend de recul et plus on... Tout mon travail justement, c'est à partir de 3, 4, 10 éléments de créer une harmonie.
Là, ce sont les bagues, bien sûr, avec ces alliances de plusieurs pierres. Nous parlerons ensuite de ces différentes pierres que vous utilisez. Mais j'en viens aux bagues maison, qui sont assez originales et qui frappent lorsqu'on les regarde, qui allient à la fois tradition et modernité dans la conception, puisque vous utilisez la technique de la cire perdue, et parallèlement, vous utilisez également la modélisation 3D sur ordinateur pour concevoir ces maisons. Oui. Comment ça vous est venu de travailler sur ces bagues maison ?
J'ai une maison en construction avec des pierres et du béton.
À un moment, j'ai voulu rendre mes bagues qui sont relativement abstraites au premier regard, j'ai voulu les rendre plus concrètes, plus lisibles. Et comme c'était de l'architecture, mes bagues pierres, je les ai traduites en forme de village, de maison, ça, tout en se référant à une tradition qui est très ancienne, qu'on retrouve même à plus de 2000 ans, mais principalement au Moyen-Âge, dans la confession juive, un fiancé offrait une bague maison à sa future épouse pour symboliser le foyer qu'il allait lui offrir.
Mais pour mieux étouffer nos murmures, sur le lit, on mettra une fourrure.
Donc on retrouve chez vous une bague monastère, une bague villa, une bague aussi qui correspond à Florence, à la ville de Florence. Donc vos sources d'inspiration, c'est en partie l'architecture ?
Bien sûr, principalement c'est l'architecture, enfin l'histoire, donc l'architecture, puisque c'est très lié. La prochaine que je suis en train de faire, c'est même une cabane. C'est-à-dire c'est histoire d'avoir une cabane sur la main, un peu le rêve de la cabane au bord d'un lac, où on peut se réfugier quand on a envie de plénitude et de sérénité.
Alors ces bagues maison, pour le coup, elles ont aussi une pierre, un diamant en l'occurrence.
Oui, souvent.
Le diamant, ça fait partie des éléments indispensables à vos compositions ?
Disons qu'elles ont un diamant. La taille naturelle du cristal de diamant est une double pyramide. C'est un octaèdre, bon, mais en réalité c'est une double pyramide et qui a une forme d'un toit à quatre pans. Et j'essaye d'utiliser ça le plus souvent possible en pierre brute, en diamant brut. Ça fait penser à la pyramide du Louvre, mais ça a vraiment un éclat beaucoup moins clinquant que le brillant, mais très 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 intéressant.
Et alors pour revenir aux pierres que nous avons laissées il y a 2 minutes, mais auxquelles nous revenons, quelles sont les pierres que vous préférez, que vous utilisez ? Il y a beaucoup de couleurs rouges, spinel par exemple.
Oui, spinel. Spinel et saphir de couleur.
Saphir, oui.
Oui. J'ai vraiment toujours privilégié la solidité des pierres. Pour moi, un bijou est quelque chose qu'on a envie de porter longtemps. C'est quelque chose qu'on a envie de garder. Et l'idée qu'il puisse se détériorer, que ça soit qu'une passade de 6 mois, m'a toujours amené à utiliser des pierres très dures. Les saphirs, après le diamant, sont les pierres les plus dures et les plus durables.
Et les diamants qui figurent sur ces assemblages de pierres sont là pour solidifier le tout ?
Pour solidifier, surtout pour protéger. Elles sont en sentinelle quand j'utilise une émeraude qui est une pierre fragile, ou même les saphirs, il est en faire valoir ce que le blanc fait ressortir la couleur, mais il est surtout en protection, un peu au-dessus des autres pierres plus fragiles, pour être le premier à prendre les coups. Donc, protéger les autres en sentinelle.
Vous travaillez bien sûr sur les bagues, on l'aura compris, bien sûr tout ce qui va avec, les colliers. Également les bracelets, les montres. Vous m'avez montré un très bel exemple de la montre,
les portes du temps,
avec un dédale derrière. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus avec ces différentes portes au fur et à mesure que le temps passe?
Alors, c'est vrai que je suis parti de l'idée de faire un cadran en ivoire de mammouth, qui est un ivoire qu'on a le droit d'utiliser.
Oui, vous faites bien de le préciser.
Les mammouths sont morts depuis longtemps, justement à la fin de l'ère glaciaire, qui est le début où les hommes ont commencé à se sédentariser, donc à construire des temples, des demeures, et j'ai voulu symboliser un peu toutes les portes qui se sont faites depuis le début de l'humanité.
Et donc qu'on retrouve tout autour
de la montre.
De la montre.
Je l'ai faite en forme de temple, je suis en train de la finaliser en forme de cercle, et c'est vraiment un bel aboutissement.
Donc à chaque fois, c'est vraiment toute une histoire, une œuvre, parce que ce sont des œuvres, racontent réellement une histoire et un parcours.
Oui, c'est pas uniquement un objet esthétique, c'est un objet symbolique. Et quand on le regarde, on découvre sans cesse des nouvelles choses dessus.
Et vos acheteurs, alors, est-ce qu'ils ont conscience que lorsqu'ils achètent ces œuvres d'art, puisque c'est le cas, ils voient juste l'objet esthétique ou ils prennent conscience qu'il y a toute une histoire derrière?
Alors, il y a des gens qui en ont conscience tout de suite, puis il y a des gens qui m'achètent parce qu'ils ont aimé comme ça, puis qui reviennent me voir 2-3 ans après me disant « c'est étonnant, je ne me lasse pas de regarder ma bague ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas un angle où elle soit identique. Et du coup, je prends souvent l'exemple de la musique classique où on a beaucoup de mal à rentrer dans un opéra à la première écoute. Enfin, à moins d'avoir une très grande culture musicale. Par contre, on l'écoute 2 fois, 3 fois, puis petit à petit, on perçoit des subtilités que j'ai la prétention de mettre un peu dans mes bijoux, mais qu'on ne voit pas au premier regard. Et c'est ce côté-là qui transpire, qui ressort au bout d'un certain temps.
Dernièrement, une nouvelle épreuve vous a été attribuée, la conception de l'épée de Mireille Delmas-Marty, qui va donc être reçue sous la coupole de l'Institut de France en tant que membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Comment s'est passée cette rencontre?
Alors, c'est la première fois où on propose de réaliser une épée d'académicienne. C'est un cheminement particulier. Il se trouve que Mireille Delmas-Marty, par ses attaches, a des liens avec la région d'où je suis originaire. Toute la symbolique qu'on a préparée avec un ami à elle lui a correspondu, et le fait que ce soit fait par un créateur de la région où elle a ses attaches, puis qu'on se soit vraiment retrouvé dans une discussion longue et approfondie, c'est au-delà d'une épée esthétique. Il y a vraiment une symbolique qui lui correspond très forte.
Vos œuvres d'art sont très originales et à l'Académie, il y a un certain académisme. Est-ce que vous allez faire attention à ce que vous allez produire?
Je vais dire une banalité, mais j'essaye de le faire le plus joli possible, à mon goût, avec le plus de cœur et d'énergie possible. Au résultat, ça transparaît. Je pense que depuis quand même pas mal d'années, l'épée d'académicien a évolué et d'une pièce très traditionnelle est devenue une pièce d'art depuis Jean Cocteau, depuis... Pas mal d'académiciens ont des épées originales, donc je ne pense pas heurter ou choquer avec ce que je vais faire.
Et quels sont les symboles que l'on pourra voir, par exemple, apparaître sur cette épée et sur lesquels vous devez travailler?
Alors, on va retrouver le ruban de Möbius, qui symboliquement est fort. On va retrouver des symboles qui relient les nuages et la Chine, tout un travail de Mireille Delmas-Marty.
Oui.
Différentes choses, il y aura une terre... Tous des symboles qui sont reliés à son travail, qui vont être présents et en figuratif et en symbolique. Je sais ce que je vais faire, j'ai du mal à l'expliquer. C'est pour ça que je fais ce métier et que je ne suis pas orateur.
Et justement, en préparant cette émission, vous m'aviez dit que tout l'intérêt, c'était de trouver des difficultés dans son métier, sinon on s'ennuyait. Donc j'imagine que lorsque vous trouvez des difficultés, vous êtes heureux.
C'est un challenge, et puis c'est vrai que ça permet d'aller plus loin, quoi. Ça permet de résoudre des problèmes techniques, esthétiques et intellectuels automatiquement. Et du coup, c'est très moteur pour toute une équipe, c'est-à-dire moi en tant que concepteur, mais aussi toute l'équipe, personnes qui travaillent avec moi et que ça passionne.
Vous parlez d'équipe, j'imagine que maintenant vous avez beaucoup de monde derrière vous. Vous avez commencé seul, maintenant vous devez avoir une vingtaine de personnes derrière vous. Mais justement, en tant que chef d'entreprise, vous réussissez à trouver encore le temps d'avoir un œil derrière toutes les étapes de la conception du premier croquis jusqu'à la vente d'une bague, par exemple.
Oui. Alors, j'ai la chance de déléguer très facilement les choses sur lesquelles je suis peu compétent, la comptabilité, ça, et de faire confiance. Et j'ai une équipe qui m'entoure, que ce soit dans la gestion des personnes, que ce soit dans la gestion de tout ce qui est hors la création. Et c'est vrai que c'est rare qu'à mon âge, 9 fois sur 10, un créateur devient plus chef d'entreprise que créateur. Et là, moi, j'ai pu basculer et n'avoir que le côté créatif à conserver et de transmission justement aux gens avec qui travaillent sur la partie plus manuelle.
Vous réussissez à garder cette patte et de pouvoir travailler. Bah, et
c'est à ce prix-là que mes bijoux gardent un style. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Et c'est vrai qu'en bijoux, en joaillerie, il y a très peu de bijoux. On peut dire, tiens, ça c'est un tel qui a fait. Parce que justement, on picore dans les tendances, dans les modes, et c'est des choses qui n'ont pas d'âme. Et j'essaye, dans mes bijoux, de mettre une âme.
Est-ce qu'à l'image d'autres grandes marques, vous allez peut-être travailler aussi sur des téléphones portables ou sur des agendas électroniques? Quels seraient là, par exemple, vos prochains projets?
Alors, je n'ai pas beaucoup de limites à ce niveau-là, mais je vois, il y a quelques années, on m'a proposé de travailler sur un ski. La Croix, les skis La Croix m'ont demandé de faire quelque chose. Je leur ai juste demandé si le but était de tartiner le ski de diamant, ça ne m'intéressait pas. Pour moi, dans ma conception de la joaillerie, c'est pas plus il y en a, plus c'est joli. Ou plus c'est gros, plus c'est joli. Il faut vraiment qu'il y ait une construction, une architecture et une disposition esthétique. Je compare toujours à la musique. C'est pas parce qu'un morceau a énormément de notes à la minute qu'il est plus joli qu'un morceau où il y a 10 notes. Et c'est l'harmonie qui m'intéresse.
Eh bien, je vous remercie, Philippe Tournaire, de nous avoir accordé tout ce temps au sein même de cette boutique. Vous retournez, bien, j'imagine, à Montbrison pour travailler dans votre atelier, puisque vous avez gardé votre attache là-bas et que vous y tenez. Et puis, donc, bientôt, vous partez en Chine, puisque vous avez également un public assez important en Chine.
Et qu'on se développe beaucoup. On exporte des choses fabriquées à Montbrison, enfin en France, qu'on exporte en Chine et qu'on a un vrai public là-bas.
Et donc, qui mérite d'être souligné dans le sens où, pour une fois, le sens est inversé. Oui. Merci beaucoup, Philippe Tournaire. On invite nos auditeurs à aller faire un tour sur votre site internet pour voir l'étendue de votre travail. Et puis, également sur notre site, nous allons insérer quelques photos afin de pouvoir se donner une idée de votre travail. Merci beaucoup.
Merci à vous.